Éphésiens 1. De la part de Paul, l'apôtre ou apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir de sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et tous. Je vous invite juste à juste un moment où on fait silence pour accueillir cette parole, et après, peut-être il y a un mot, une expression, une phrase que Dieu souligne, on va courtement juste partager. Donc, on fait un moment de silence. Ouais, c'est un passage, le livre d'Éphésiens, c'est seulement quand j'ai commencé le cours d'allemand, que j'ai commencé à lire dans, en allemand, que j'ai commencé à comprendre un peu mieux, parce que des fois, il y a des phrases très longues, et puis, avant d'arriver à la fin de la phrase, j'ai oublié ce qui était au début, mais je pense que l'Esprit de Dieu a souligné quelque chose chez vous. Si vous avez quelques pensées comme ça, vous pouvez partager. Ouais. Ouais. Scellé du Saint-Esprit. Et à nous, avant, et puis à vous, je pense qu'il mentionnait les Juifs, et après aussi, vous aussi, ouais. Je parlais de l'allemand tout à l'heure, au verset 9, ça devrait être en 2017 par là-bas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces années, mais aussi maintenant aussi. Et puis j'apprenais le cours d'allemand, donc pour pratiquer, je lisais ma Bible, Hoffnung für alle, en allemand, et puis j'arrive sur ce verset 9, et il dit, Gott hat uns sein Plan für diese Welt gezeigt. J'ai été lié en français, et puis c'était écrit, mais je l'avais jamais pu comprendre, en fait, ouais. En gros, Paul est en train de dire, mais ici, on parle du mystère, hein, de sa volonté qui nous est révélée. Et c'est dit, ce plan était longtemps caché. Et tout d'un coup, Dieu a décidé de nous révéler son plan pour ce monde. Et ça m'a pris un moment pour le réaliser. J'ai dit, moi, Noël, ici, en train de marcher dans les forêts là-bas, au-dessus de bien là, je connais le plan de Dieu pour ce monde. Je vous laisse réaliser la chose. Vous connaissez le plan de Dieu pour ce monde. Et puis, il y a tout plein d'autres pelles. Au fait, je pense que Paul a dû peser les mots. On parle de gloire, de sagesse, d'intelligence. En fait, c'est énorme tout ce qu'il a, ouais, tout ce que l'esprit l'a conduit à mettre dedans. Et après, là où il est dit, à partir du verset 15 là et suivant, je prie qu'il vous donne l'intelligence, la sagesse pour le connaître. Je prie qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez le connaître. En fait, il y a tout plein de choses qu'on peut avoir de Dieu, mais sans que les yeux nous soient ouverts, on n'arrivera tout simplement pas. En fait, ça fait que Paul, tout ce qu'il fait, c'est de prier. Je prie pour vous, hein, pour que vous ayez l'intelligence de le connaître, que les yeux de vos cœurs, de votre cœur, soient ouverts pour tout plein de raisons. Déjà pour que vous compreniez l'espérance qui est attachée à votre appel. Déjà l'appel. Mais l'espérance qui s'attache à ça, la richesse de notre héritage, et je pense que c'est Sylvie ou derrière quelqu'un parlait de la puissance, en fait, hein, où, et là, je devais m'arrêter encore une autre fois quand Paul dit, en gros, en résumé, hein, ce que j'ai retiré de l'allemand de nouveau, c'est que non seulement il nous a montré son plan pour ce monde, mais il y a une puissance sans limite qui est à l'œuvre. Nous qui croyons, donc en moi, Noël, une puissance sans limite est à l'œuvre en moi. Et puis, juste le verset 20, je pense, il dit pour comprendre cette puissance, il faut regarder à la croix. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui est à l'œuvre Ah non, non, il y a quelque chose qui ne joue pas pour moi. Donc, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je la traîne un peu partout. Dans mes conversations, j'aime bien mentionner mes marches parce que c'est là où nous processons nos trucs, peu Dieu et moi. Donc, de dire, mais cette puissance-là est à l'œuvre avec moi et qu'est-ce que j'en fais? Donc, j'ouvre tout plein de pistes là. Mais je ne vais pas forcément les approfondir. Je vous laisse le méditer dans la langue qui vous parle le mieux ou qui, je sais pas. Mais je vais m'arrêter sur ce verset 9 de nouveau où il est dit, Dieu nous a montré son plan pour ce monde. Et moi, j'ai fait une expérience que je vais vous raconter là. C'est pas 2017, mais presque. Ça doit être vers 2018-19. Là, et je lisais un passage biblique, pas dans Éphésiens, mais toujours de Paul. C'est 1 Timothée 2, 4. Je vais revenir à Éphésiens après. 1 Timothée 2, 4, où il dit, mais Dieu veut que tous soient sauvés. Enfin, et puis, OK. Certainement, je l'ai lu déjà plusieurs fois, mais cette fois-là, je m'arrête et je dis, est-ce que c'est, excusez peut-être la cruauté de mon langage, est-ce que c'est réellement vrai ou c'est rhétorique? Ok, je sais que la Bible est vraie et c'est ce que je crois profondément en fait. Mais cette question ou ces réflexions m'ont amené un peu plus loin. Oui, c'est vrai. Et puis, on nous avait dit à l'école biblique, au fait, préparer des prédications ou tout ça ne fondait pas une vérité biblique sur un seul passage, mais au moins deux, trois et différents auteurs. Okay? Et dans 2 Pierre, donc un autre auteur, un autre livre, 2 Pierre 3, 9, il est écrit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, hein, mais que tous parviennent à la repentance, hein, à la connaissance de Dieu. Tous de nouveau, en fait. Donc, là, je pouvais déjà, avec les règles de l'homilétique, préparer, je peux établir quelque chose en disant réellement, Dieu veut que tout soit sauvé. Deux auteurs le disent, on peut le trouver dans différents autres endroits de la Bible. Et puis, là, pour moi, j'ai continué un peu mes questions qui me choquaient un peu là, en disant, mais si Dieu veut que tout soit sauvé, et c'est le cas, voilà, mais est-ce que tous sont réellement sauvés? Et puis là, de nouveau, avec la théologie, je peux faire des gymnastiques pour noyer la question un peu comme ça, et puis pour la rendre, faite audible, hein, au fait, entendable, je sais pas si c'est un mot français, mais que ça passe. Parce que c'est un truc qui me piquait, moi, mais au lieu d'entrer dans des réflexions, est-ce que tous sont sauvés? Et puis, à mon simple niveau, j'ai dû répondre à cette question, non. Parce que je connais des gens et même d'autres que je ne connais pas dans ce monde, peut-être au moment où nous on parle ici, quelqu'un est en train de mourir sans avoir fait la paix avec Dieu. OK. Donc, Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que tous sont sauvés? Moi, j'avais répondu non. Et puis là, toujours dans ma réflexion, je dis, mais bon, je réalise là que le créateur du monde, celui dont la parole transforme tout, il a un rêve. Son rêve, c'est que tout soit sauvé et sous mes yeux, ce rêve ne se réalise pas. Et là, je me suis dit, il doit y avoir un problème quelque part, soit à mon niveau de compréhension ou, ouais, j'ai aussi appris que c'est souvent pas au niveau de Dieu. Donc, j'ai cherché où est le problème. Et puis, là, je me suis rappelé de quelques principes, de la Bible. C'est-à-dire, tout ce que Dieu veut dans le ciel, c'est bon, hein? Que tout ce qu'il veut là-haut, ça s'est fait automatiquement. Mais sur la terre, ce que Dieu veut, il y a encore d'autres partenaires. Et Dieu aime le partenariat avec les humains. Donc, ce qu'il veut sur la terre, Il peut vouloir fortement quelque chose et sous nos yeux, ça peut ne pas se réaliser parce qu'il n'est pas seul. Les partenaires de Dieu ont un rôle à jouer dans la réalisation de son rêve sur la terre. Ok, ça c'est un des premiers principes, hein, c'est que Dieu aime travailler sur la terre en partenariat avec les humains. Un deuxième que j'ai trouvé, c'est que tout ce que Dieu me demande de faire, il le fait d'abord pour me montrer un exemple. Comme ça, je peux suivre son exemple. Et puis, à partir de là, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que Dieu a fait, lui, pour son rêve? En gros, on n'a pas besoin d'aller trop loin et on vient de fêter Pâques. Où on dit, ce rêve de Dieu, sa part, c'est qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il s'est donné lui-même son fils unique. Hein, et il l'a donné. Et ce rêve, tout simplement, a coûté la vie à Jésus pour la réalisation du rêve de Dieu. Et Jésus, en mourant sur la croix, a dit cette phrase, tout est accompli. Et puis, pour moi, c'est vrai que ce tout est accompli tellement de signification. Je ne veux pas dire que j'ai compris ce que ça veut dire, peut-être juste un bout. Mais en ce qui concerne le rêve de Dieu pour le salut des humains, je comprenais alors, mais Jésus vient de réaliser la part de Dieu. Parce qu'il a dit, tout est accompli par rapport au salut, des humains. En fait, c'est écrit, tout est accompli. Et là, j'ai le choix, en fait, hein, d'aller plus loin en disant, OK, maintenant, ce qui reste, c'est la part des humains qui reste. Et c'est vrai. Mais là où j'ai le choix, je peux prendre la piste qui dit, waouh, la réalisation du projet de Dieu dépend de moi. Et je commence à m'écrouler. C'est la version de la culpabilité. C'est parce que j'ai pas fait assez que le projet de Dieu ne s'est pas réalisé. Donc, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Et on fait jusqu'à mourir en faisant pour Dieu. Et puis, on est amer parce qu'on ne voit pas de fruits ou grand-chose. Pas grand-chose change. Et une autre vérité qui peut aider, qui m'a aidé, c'est la prière du Notre Père, où Jésus dit aux disciples, quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et du coup, j'ai ressaisi encore cette phrase-là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je l'ai appliquée au domaine du salut, de ce rêve de Dieu, que ta volonté soit faite dans le salut du monde comme c'est déjà fait au ciel. Ta volonté est parfaite au ciel, mais dans ce domaine-là, ce n'est pas encore parfait. Et ce qui a changé chez moi avec ça, c'est que je me suis rendu compte que même pour ma part dans la réalisation du rêve de Dieu, je suis encore invité à aller vers Dieu, au fait. Hein, c'est pas que je dois faire quelque chose pour, mais je vais lui demander que ton rêve se réalise sur la terre comme tes rêves sont déjà réalisés au ciel. Et je dois dire, à partir de là, ce qui s'est produit en moi, c'est une énorme joie, en fait. C'est quelque chose de, à partir de là, je pense, c'est peut-être une décision, inconsciente, mais c'est devenu conscient, où je me suis dit, je veux passer le reste de ma vie pour, m'investir dans la réalisation de ce rêve, en fait. Quoi faisant, je me suis dit, si la prière peut avoir autant d'impact, c'est-à-dire Dieu veut que nous allions lui demander ce qu'il veut faire, qu'il le fasse, ça fait une bonne gymnastique. Hein? Je veux faire ça et vous me demandez de faire ce que je veux faire. Dieu aime travailler avec une équipe, on avait dit. On avait vu aussi dans l'Ancien Testament, souvent deux témoins, deux ou trois. Là, Dieu veut quelque chose et il a toi comme témoin, moi comme témoin, on est déjà deux ou trois ou plusieurs. Et puis Dieu dit, OK, ce que je veux, il y a d'autres qui le veulent, c'est sur leur terre, la terre des humains. Alors, puisque vous me le demandez, voilà, je vais me mettre à l'œuvre. Et là, ça va se produit quelque chose, c'est au lieu que je sois en train de faire des trucs parce que je me sens coupable de bloquer le projet de Dieu, je me mets à prier Et c'est là que Dieu va me montrer. Moi, j'aime bien l'idée des boutons. Je ne sais pas d'où j'ai ça. J'ai passé plusieurs années de ma vie à chercher comme un bouton. Je me dis, un truc où en appuyant dessus, ça va déverrouiller tout plein de systèmes quelque part. Peut-être. Je ne me reconnais pas comme paresseux, mais ça sonne un peu de la paresse. Donc, du coup, là, en train de prier, de chercher Dieu, il va nous montrer des trucs qui vont ressembler presque à j'appuie sur un bouton et j'attends et je vois le mécanisme se mettre en place. Et à partir de là, je pense que c'est les espaces où je suis les plus dans la joie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous, on cherche et tu montres juste quelque chose et là, tu as l'impression de réaliser des choses pour lesquelles Dieu t'a placé là, en fait. Et de dire, Seigneur, je veux jouer ma partition dans la réalisation de ton rêve. Revenons à Éphésiens, où il est dit, Dieu l'a établi au-dessus, 4-5 fois, hein, de toutes. Toute domination, toute autorité, toute puissance et tout quelque chose encore et tout nom qui peuvent être nommés dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Et c'est en réfléchissant, en reméditant sur ce passage ce matin ou je sais plus, que je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Et directement après, on parle d'église. Certains, à la fin du chapitre, c'est parler d'église. Parce que quand on se met collaborer avec Dieu dans la réalisation de son rêve, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu veut que tous soient sauvés, mais tous ne sont pas sauvés, c'est qu'il y a quelqu'un qui a intérêt qu'ils ne soient pas sauvés, au fait. Et ce quelqu'un-là agit au travers des dominations, des autorités, ça doit être au verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Quel que soit le nom qui peut être nommé, où que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde à venir, Jésus a été établi au-dessus de tous ces noms. Et ça veut dire que dans ce rêve de Dieu, dans la collaboration avec Dieu, par rapport à la réalisation de son rêve, on doit être conscient, et Paul va le dire à la fin de ce livre, en fait, hein, de Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ce qui est curieux, c'est les mêmes noms qu'on voit ici au verset 21, mais nous avons à lutter contre les dominations, les puissances, les autorités, les souverainetés. Donc, les mêmes que Jésus est mis au-dessus d'eux, on a à lutter contre eux. Donc, vous voyez le truc? On a à lutter contre eux, mais ils sont déjà vaincus, en gros. Mais ils vont chercher par tous les moyens, mais même depuis leur position de vaincu, à nous faire croire qu'on n'arrivera jamais. Donc, c'est aussi cette prise de conscience en disant, on lutte contre des ennemis, mais que Dieu a déjà vaincu. Ils vont se rebeller. Ils vont se lever pour faire comme si quelqu'un leur appartient. Et bien sûr, c'est toujours Paul qui dit, ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et alors que nous, on est en train de dire à Dieu, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les familles qui habitent autour de vous, autour de cette église. Bien sûr, il y aura des choses qui vont se remuer, mais on va leur appliquer ce passage-là. Vous êtes sous l'autorité du Christ. Et ça, c'est pas Paul qui dit, c'est dans Matthieu 18, où Jésus lui-même dit, je bâtis mon église, je bâtis cette communauté messianique, cette communauté de pierres vivantes, spirituelles, et même la mort ne va pas prévaloir contre elle. Donc, voilà un peu dans quoi nous sommes embarqués là, au niveau de l'école de prière, c'est rien d'autre que de voir, de participer à la réalisation du grand plan de Dieu. Et souvent, j'aime parler de ce Éphésiens 1 comme le master plan de Dieu. Paul dit, mais Dieu nous a montré le plan de Dieu. Paul dit, Dieu nous a montré son plan pour ce monde, au fait. Et des gens comme nous, humains, mais qui pouvons dire, nous connaissons le plan de Dieu. Et ça m'a tellement déchargé quand je priais pour d'autres choses, au fait, hein, de mes bobos ou mes orientations. Je connais le plan de Dieu, alors c'est pas cette situation-là qui va m'embêter. Le plan de Dieu pour le monde entier, je le connais, au fait. Et ouais. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui vous parvient de tout ça. Je vous propose qu'on s'arrête un peu et puis on va prendre un moment de prière, de dire « Dieu a un rêve et sous mes yeux, son rêve est compromis ». C'est bizarre de dire ça, Dieu souverain qui a un rêve et qui ne se réalise pas, en fait. Mais sans culpabilité aucune, si vous en sentez une, c'est un fardeau qu'on va déposer. Hein? Dieu ne cherche pas des gens coupables pour réaliser son plan avec lui. C'est pas comme ça il fait. Hein? Donc, si on sent un fardeau de culpabilité par rapport à ce rêve de Dieu, on va le déposer maintenant dans la prière. Et puis, on va juste demander à Dieu, mais Seigneur, révèle-moi la brique que je suis dans cette maison avec des pierres vivantes, au fait. Dans ce grand plan que tu as, j'ai une place. Et que cela devienne clair dans mon âme, dans mon esprit, même dans mon corps. Je pense que le silence serait une bonne idée. Ouais, je propose qu'on prenne juste un moment de silence. Et si dans votre cœur vous sentez mais une once de culpabilité par rapport à ça, demandez simplement à Jésus, je dépose ce fardeau-là, ou même si c'est pas culpabilité, mais autre fardeau, je ne suis pas à la hauteur, moi je viens juste de me convertir, je suis nouveau, c'est Jean-Paul et Barbara, et puis le comité, c'est eux qui connaissent le plan de Dieu, déposez ça aussi. Si vous êtes là, c'est que Dieu pense, avant la création du monde, que vous pouvez participer à la réalisation de son plan. Donc, tout fardeau qui émerge, et je prie aussi maintenant que tout fardeau qui n'est pas de Dieu émerge, que Dieu les remue pour qu'ils puissent être déposés. Et si quelque chose est remué, dites simplement à Jésus, je le dépose à tes pieds, je ne veux pas porter ça, je veux être libre pour participer à ton plan. Partenaire avec toi dans la réalisation de ton rêve.
Seigneur, tu vois.
Pas la prière. Et alors qu'on est en train de prier, on devient missionnaire. On devient la réponse de Dieu, mais ce n'est plus depuis nos craintes, ni depuis nos perspectives de voilà comment ça va se faire, ni depuis même notre orgueil, mais ça devient mais une réponse à la prière. On est préparé au travers de la prière. C'est comme pour entrer dans ce partenariat, il faut entrer dans le tunnel de la prière et Dieu, à la fin, l'élargit. On se retrouve dans un champ en train de moissonner, mais c'est ce pourquoi on est fait. Et peut-être alors que dans les temps qui viennent, on est en train de prier. Le Seigneur va mettre sur ton cœur, sur votre cœur, une action. Là, ce sera quelque chose que lui-même a préparé. C'est vrai, l'Église ici a choisi de prendre, on peut prier pour le monde entier, mais on peut prendre aussi un endroit où on peut prendre un thème, et c'est le thème des familles ici qui est pris pour ce temps, et on est en train de prier dessus. Mais ne vous enfermez pas que à ça, si Dieu vous met autre chose à cœur individuellement, là maintenant vous allez voir avec lui, Seigneur, comment tu veux que je participe dans ce domaine-là.